Donc, on a en ligne Éric Cadotte, notre chroniqueur policier dans Allez hop, bon matin. Éric, on avait quelques questions à te poser concernant un dossier assez particulier. On nous a fait part, enfin, on a parlé même à la famille, une page Facebook qui a été créée sous un faux nom, donc quelqu'un qui se fait passer pour une adolescente qui est décédée du cancer en 2011, puis la personne en question est allée écrire à la maman vraiment un message épouvantable. On se posait la question, est-ce que c'est criminel de faire ça?
Ouais, ben c'est très intéressant comme question, mais il faut comprendre que c'est pas un faux nom, parce que ça change toute l'orientation que le dossier pourrait prendre là au niveau judiciaire. C'est un vrai nom. Cette personne-là a réellement existé, malheureusement, aujourd'hui. Bon, elle est décédée dans les circonstances qu'on connaît, mais ça nous réfère à l'article 403 du Code criminel, qui est la fraude à l'identité. Et commet une infraction dans le fond, quiconque frauduleusement se fait passer pour une personne qui a déjà existé, qu'elle soit vivante ou morte. Le code criminel fait pas vraiment de différence, mais c'est qu'est-ce qu'on fait avec cette information-là? Si c'est pour obtenir un avantage pour soi-même, là, pour la personne qui fait ça, obtenir un bien, un intérêt, ou pour causer du tort, pour causer un désavantage à la personne qui reçoit ce message-là, ben le code criminel est très clair là-dedans et pourrait y avoir des accusations qui sont déposées. Maintenant, si le compte aurait été piraté, si c'est un vrai compte qui a déjà été utilisé par une personne, que cette personne-là est décédée ou non, là, et qu'on réussit à trouver le mot de passe et accéder à ce compte-là, il pourrait en plus y avoir des accusations de piratage informatique qui pourraient être déposées. Mais là, de ce qu'on comprend rapidement, là, c'est un faux compte Facebook où est-ce qu'on utilise une personne qui a déjà existé, là. Donc, ça s'appliquerait pas. Mais la dernière infraction qui pourrait s'appliquer, c'est l'article 372 qui est faux renseignement. Parce que si on fait un faux message dans l'intention de nuire à quelqu'un, d'alarmer une personne ou qu'on transmet des informations qu'on sait fausses, là, mais à ce moment-là, on risque une accusation mixte, là, soit sommaire ou soit acte criminel. Et la peine minimale, là, ben, c'est soit un emprisonnement maximal de 2 ans ou une amende, là, qui pourrait aller jusqu'à 5 000 $.
Il y a utilisation aussi, Rick, d'une photo, donc une photo représentant malheureusement l'adolescente qui est décédée. Est-ce que ça reste dans le même optique? Est-ce que ça reste dans le même dossier finalement ou c'est à part?
Ouais, c'est un peu différent, hein? C'est sûr que ça va faire partie de la preuve au criminel, là, qui va venir étoffer la fraude à l'identité parce qu'on sent vraiment que le mauvais plaisantin, là, qui a commis ce geste-là, voulait réellement se faire passer pour cette personne-là qui a existé. Mais tout ce qui touche à l'image, à la photo, ça s'apparente un peu plus au civil, qui est une autre instance juridique. Et à ce moment-là, c'est toute la question des droits de propriété sur les images, sur les photos, ou le libelle diffamatoire, là, pour nuire à la réputation de la personne qui est décédée ou non, là, qui pourrait s'appliquer, là, ou sa succession. Donc, c'est vraiment deux choses différentes, mais qui sont quand même assez intimement interreliées.
Évidemment, j'imagine que la famille, il faudrait qu'elle décide de porter plainte à la police pour que tout ça se mette en branle.
Ben, c'est la personne qui a reçu le message et à qui le message était adressé. Cette personne-là pourrait, oui, porter plainte pour faux renseignement et fraude à l'identité, là, comme je le disais un peu plus tôt, là. Il y aurait matière à enquête, là, au premier coup d'œil, là, pour ce dossier-là.
Est-ce que ça s'est déjà vu sur le territoire, un genre de dossier comme ça? Maintenant, avec les réseaux sociaux, ça se multiplie malheureusement.
Ben, généralement, les gens qui viennent porter plainte pour ce type de crime-là, c'est qu'ils ont subi une perte monétaire, hein. Mais le code criminel est très clair dans la jurisprudence, c'est que lorsqu'on subit un désavantage, c'est pas nécessaire que ce soit pécunier, c'est pas nécessaire que ce soit d'origine financière. Souvent, c'est ce qu'on voit, là, mais ce n'est pas obligatoire. On pourrait même aller jusqu'à une communication indécente ou harcelante si jamais ça perdurait et que, dans le fond, le suspect le continuerait à rentrer en contact avec la famille ou la personne. Ça pourrait aller même jusque-là. Ça, on en voit là, occasionnellement.
Est-ce qu'on réussit par la suite, grâce à l'enquête, à retrouver ces gens-là, à les retracer? Est-ce qu'on est outillé au Québec actuellement pour le faire?
Ben, c'est sûr que les ressources sont quand même assez limitées dans les crimes informatiques, sans vouloir décourager les victimes. Souvent, ce qui arrive, c'est que c'est dans l'entourage quand même assez proche des gens, là. Lorsque ces choses-là arrivent ou s'il y a une perte financière, on est toujours en mesure d'essayer de retracer un peu là l'argent, s'est transigé de quelle façon. C'est sûr qu'on a des enquêteurs qui travaillent très, très fort pour monter un dossier et ultimement déposer des accusations, mais ce ne sont pas des crimes qui sont toujours faciles à enquêter.
Évidemment. Éric Cadotte, merci de ces éclaircissements. Ça nous aide à comprendre un peu plus ces cas-là. En souhaitant qu'il n'y en ait pas d'autres, évidemment, du genre, c'est assez particulier. Merci d'avoir pris le temps de nous expliquer ça.
Toujours un plaisir.